Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est le Énervé la suite. Ce soir, mobilisation générale pour la cause animale. Que se passe-t-il dans le monde de nos amis les bêtes? Eh bien, les défenseurs passent à l'attaque, avec notamment un livre qui revient sur le combat de l'association L214, qui fait trembler le monde de l'élevage. Et puis, hasard de l'édition, un autre livre lui rappelle la richesse culturelle française des races et populations bovines. Et enfin, une campagne d'affichage dans Paris dénonce la captivité des animaux sauvages avec en ligne de mire les cirques. Du coup, énervé avec cette âne battée de Benoît Lagane, on s'est demandé où on en était aujourd'hui dans la cause animale. Qui fait l'homme, qui fait la bête? Et pour en parler ce soir en direct du studio 621, quatre invités. Brigitte Gauthier est à côté de moi. Vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association L214, au centre du livre L214, une voix pour la France, de Jean-Baptiste Delamo. Bonsoir.
Pour les animaux.
Pour les animaux. Pour les animaux.
Bonsoir.
Bonsoir. Philippe Dubois, vous êtes ingénieur, écologue, l'auteur de Toutes les vaches de France d'hier et d'aujourd'hui et de demain, qui paraîtra justement demain aux éditions Delachaux et Niestlé. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Face à vous, Amandine Sanvicens, vous êtes la présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis.
Exactement, bonsoir.
Et enfin, à côté de vous, Amandine, il y a Geoffrey Le Guilcher, vous êtes journaliste et auteur de Steak Machine, on vous avait reçu l'année dernière sur le sujet. Bonsoir. Le Énervé la suite, ça va commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et mon bébé phoque.
Ah bah oui, justement.
Benoît Lagane.
Bah oui, vous savez Laurent, tout commence, tout se construit durant l'enfance. Et bien moi, pendant l'enfance, j'ai été nourri par ce bruit de fond de Brigitte Bardot et des bébés phoques. D'ailleurs, à 10 ans, je regardais le dessin animé télé Bibi Phoque et je peux vous certifier que ça m'a beaucoup construit dans mes convictions écolo. Et de la même manière, c'est grâce à la télé et aux séries que j'ai toujours refusé, par exemple, de manger du steak de dauphin. Et pour cause.
Qui est plus peur?
C'est lui là-bas. Il est vraiment fort. Il nous remorque, mon frère et moi, aussi loin qu'on veut.
C'est un dauphin domestiqué?
C'est le dauphin le mieux apprivoisé de tout l'océan.
Tu parles des Vendées du Galak.
Mais non, c'est QFD Laurent Flipper le dauphin. Et Flipper le dauphin incarnait en quelque sorte la mère de substitution des deux héros. Donc j'allais pas la manger. C'était terriblement inhumain. De la même manière, je me suis toujours refusé à me cuisiner un aigle, une panthère ou un cheval. Et pour cause, j'étais un téléspectateur assidu de ça.
Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. L'animal de l'homme. Le monde de l'homme animal.
Vous n'allez pas faire tout le tour des séries qui parlent des animaux, parce qu'il y a aussi mon oncle Ben, voilà, je ne sais pas quoi. Ben.
Non mais Manimal, c'était intéressant, parce que c'était pas question de retrouver aussi Manimal, un homme qui se transformait en animaux, dans une assiette. Mais ça nourrit finalement l'imaginaire. Mais bizarrement, il y en a une que j'ai toujours accepté de manger dans mon assiette, c'est elle.
Bonjour docteur. La Noiraude à l'appareil.
Bonjour la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore?
Docteur. Je voudrais être une biche.
Oui, elle se rêvait en biche parce que le docteur la rassure, lui expliquant que contrairement à Bambi, elle ne se ferait pas tuer par un chasseur. Certes, mais ce que la Noiraude ne savait pas à l'époque, c'est qu'elle avait de fortes chances de finir à l'abattoir. Bref, manger un bon steak, ça ne m'a jamais dérangé. Mais tout vient de cette culture-là, finalement. On accepte des choses comme si, finalement, ça allait de soi, c'était culturel. Brigitte Gauthier, vous mangez pas de viande depuis longtemps, mais vous en avez mangé. Et c'est la lecture d'un Jodorowsky qui a fait basculer le lama blanc, c'est ça?
Oui, c'est ça, avec Sébastien, qui est aussi un des cofondateurs de l'association. Il était en train de manger un morceau de lard en lisant Jodorowsky. Lui, il est petit-fils d'éleveur, petit-fils de boucher maquignon. Et ce jour-là, bizarrement, en lisant cette bande dessinée, tout à coup, le morceau de lard qu'il a mangé s'est superposé avec l'image du cochon. Enfin, vraiment, ça a repris la place d'un animal qui aurait voulu continuer de vivre. Et dans notre société, là, aujourd'hui, ici et maintenant, on n'a absolument pas besoin de manger les animaux pour vivre en bonne santé. Et ça lui a paru complètement fou de continuer de faire tuer des animaux juste pour notre plaisir.
Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez en faire alors des vaches qui sont dans les prés ou des autres animaux?
Eh bien voilà, c'est tout le sens de votre question. Qu'est-ce que vous voulez en faire?
Eh
bien, pour une fois, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question de comment on pourrait vivre avec elle sans avoir un projet de tirer profit d'elle-même? Et effectivement, dans nos paysages, bah, c'est super chouette. On est très content de voir des vaches. On est moins content de voir les images dans les abattoirs quand elles résistent de toute leur force pour pas se faire tuer devant le matador qui va les assommer quand ils se loupent pas et puis avoir la gorge tranchée. avec ou sans étourdissement. Donc voilà, c'est tout ce paradoxe. On aime bien voir les vaches, on aime les vaches, on est... Quand on est jeune, on nous apprend à les respecter. Vous avez parlé de Flipper le dauphin. Le dresseur de Flipper le dauphin est devenu un fervent défenseur des dauphins. Il se bat en ce moment au niveau de la baie Taiji contre justement la capture des dauphins et leur esclavage. Donc voilà, on a tout ce paradoxe en nous. Et peut-être pour se mettre de façon cohérente, effectivement, à 20 ans, on a pris la décision d'arrêter de les manger. Et puis quelques années plus tard, vraiment de s'engager dans une cause qui est dans la lignée de toutes les causes d'augmentation de notre sphère de considération morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en théorie, tous les êtres humains, on considère leurs intérêts à égalité. Et on a gardé en dehors de cette sphère les animaux, alors que ce sont des êtres doués de sensibilité, qu'on partage ça avec eux. Et il n'y a aucune raison de ne pas prendre en compte leurs intérêts.
Philippe Duvois, vous qui racontez dans votre livre que suite à la crise structurelle de la crise du lait, il y a une crise à long terme, c'est celle justement des personnes qui mangent de moins en moins de viande. Alors comment vous percevez le combat de Brigitte Gauthier, vous qui vous intéressez à l'histoire des races bovines?
Bon, il y a le fond et la forme. D'abord, à titre personnel, je mange très peu de viande. J'aime pas la viande, donc de toute façon, c'est clair. Donc je ne suis pas ici
un défenseur.
Un défenseur, je suis granivore, moi, herbivore, comme les vaches. Cela dit, deux choses. Historiquement, l'homme est omnivore. Bon, je veux dire, c'est pas... Donc, de considérer du jour au lendemain que l'homme ne peut plus être carnivore dans son omnivorie, et être essentiellement frugivore, granivore, etc. Je trouve que ça procède un peu de la même chose que lorsqu'on a voulu faire manger de la viande aux herbivores. Donc ça c'est un premier point. Donc je pense que chacun peut choisir s'il veut manger de la viande ou pas. Cela dit, où je suis tout à fait d'accord avec L214, c'est sur la forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les images que nous ont montrées L214, elles sont révoltantes, elles sont inhumaines et abestiales, si je puis dire. Elles sont surtout témoins d'une époque qui devrait être révolue. Mais pour autant, on peut parfaitement continuer à manger de la viande en respectant l'animal. Je serai très bref, simplement aujourd'hui se développe par exemple dans les pays de Scandinavie, enfin la Suède notamment, la Finlande, c'est l'abattage des animaux à la ferme.
À la ferme, certains d'ailleurs en France le réclament.
Comment ça le faire ? C'est-à-dire que l'animal n'est pas stressé, l'animal est en tout cas beaucoup moins stressé, il est abattu sur place dans des conditions qui ne sont pas les conditions ignominieuses que l'on peut voir effectivement dans les abattoirs. Et au final, certes, c'est la mort d'un être vivant. On peut toujours se poser des questions, mais tous ici, autour de cette table, a certainement pris une voiture, a fait 500 km en plein été et a, sans le savoir, tué des dizaines de milliers d'insectes avec sa voiture. Il faut avoir une logique. Il y a les êtres vivants, ce ne sont pas que les animaux que l'on mange, nous. Voilà.
Je pense que nous avons assez peu de chances de finir avec une balle en pleine tête. Alors ça pourrait arriver, mais c'est absolument pas le cas. On va pas nous prendre volontairement notre vie, à part si on tombe sur des gens qui nous veulent vraiment du mal. On peut vivre notre vie pleinement. Puis ces animaux, ils ont aussi une vie sociale et souvent on l'ignore. D'autre part, on est omnivore, mais par exemple dans nos sociétés, en France en tout cas, on refuse de manger du chien et du chat. Enfin, omnivore, ça veut dire que justement, on a un large éventail de choses qu'on peut manger. Et justement, on peut choisir qui on mange ou qui on ne mange pas. On peut exactement choisir de ne pas manger les animaux. On n'est absolument pas dans le cas de la vache folle qui est herbivore, comme vous le dites. Nous, on est omnivore. Justement, on a ce choix. Et ce choix, on peut le faire de façon à ne pas... quand on dit on peut choisir personnellement de manger de la viande, bah oui, mais dans ce choix, en fait, c'est pas un choix entre nous et nous. C'est un choix entre nous et la vie d'autrui.
Quelles sont les actions les plus spectaculaires que L214 a mis en place justement pour défendre cette cause animale ?
Les actions les plus spectaculaires, c'est vraiment d'essayer de sortir la réalité de derrière les murs des élevages et des abattoirs, d'essayer de témoigner de ce que les animaux finalement hurlent dans les couloirs des abattoirs, montrent dans les élevages. On a montré dernièrement ce qui commence quelle est la vie d'un poulet de chair, cette croissance forcée, rapide, en 30-35 jours, vous avez un poulet d'un kilo 4, de 2 kilos, contre 40 il y a 50 ans.
Vous aviez commencé par le gavage des oies, alors que c'est
alors, on avait commencé, alors, c'est culturel, c'est récemment culturel. Enfin, quand on n'a plus d'arguments, en fait, on dit c'est la culture, c'est la tradition. En fait, à aucun moment, on a choisi de manger de la viande dans notre société. Par contre, on peut choisir le moment où on n'en mange plus. Enfin, moi, j'ai commencé à manger de la viande, je ne me suis pas posé de questions. Mais par contre, j'ai choisi le moment où l'arrêter. Donc, les actions spectaculaires, finalement, elles ne sont pas si spectaculaires que ça. C'est simplement essayer de poser
donner
les
des
cartes,
images, ouais, c'est ça.
Poser les cartes sur la table. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Regardez de quelle façon on les traite. Parce que les images qu'on a montrées, c'était aussi bien des abattoirs, de grands abattoirs, que des abattoirs, justement, bio, label, etc. C'est de cette façon qu'on les tue. C'est de la façon majoritaire dont on les élève. 75% des poulets de chair sont élevés de la façon dont on vient de montrer. Là, c'était chez Doux, mais dans d'autres élevages aussi. C'est les cochons qui sont gardés sur caillebotis. C'est les poules pondeuses qui sont entassées dans des cages de batterie. C'est les vaches qui, pour l'instant, il y en a quelques-unes qui sont encore à l'extérieur, mais on leur retire leur veau pour pouvoir prendre leur lait. On commence à les entasser dans les élevages de 1000 vaches. On commence à les engraisser dans les 4000 bovins qu'on veut enfermer en Saône-et-Loire. Enfin, on est vraiment encore dans un processus où on continue d'entasser les animaux, alors même qu'on n'a jamais eu moins besoin de produits d'origine animale qu'aujourd'hui. On tue aujourd'hui 1000 milliards d'animaux, entre les animaux terrestres et les animaux aquatiques, chaque année dans le monde. Depuis les débuts de l'humanité, on est 100 milliards d'êtres humains à s'être succédé. Chaque année, on tue 10 fois plus d'animaux qui s'est succédé d'êtres humains. C'est...
Alors, deux militants de votre association ont été jugés le 4 septembre par le tribunal de grande instance de Versailles. Le jugement a été renvoyé au 9 octobre prochain. Extrait d'un reportage de France 3 à la sortie du tribunal.
Ce devait être le procès des méthodes de l'association L214. Ça a été aussi celui de l'abattoir de Houdan. À la barre, les deux militants de la cause animale et leurs avocats expliquent qu'ils n'avaient pas le choix en posant ces caméras. Le seul moyen, selon eux, de montrer le quotidien des animaux et leurs souffrances. On y voit des cochons plongés dans un puits où ils sont étourdis au CO2 avant d'être saignés. Une méthode légale pour les services sanitaires de l'État, pour L214, qu'importe les moyens, pourvu que le débat soit ouvert.
Avec cette intrusion dans l'abattoir d'Houdan et cette vidéo choc, l'association L214 est-elle allée trop loin dans son désir de convaincre le grand public de manger moins de viande ?
Qu'est-ce que vous répondez à la question du journaliste Brigitte Gauthier ? Et je vous poserai aussi la question à Amandine Saint-Vicens.
Ben, je crois que quand on
vous reproche d'aller trop loin.
Bah, enfin, franchement,
étrange. Hein.
Bah, c'est très étrange, oui. Enfin, quand on est devant une injustice, il faut chercher les moyens pour la lever. Et effectivement, aller dans un abattoir, essayer de témoigner de ce qui s'y passe. Les abattoirs, c'est vraiment de véritables boîtes noires. C'est Olivier Falorni, lors de la commission d'enquête sur les abattoirs d'animaux de boucherie, qui a été provoqué par les premières enquêtes qu'on a montrées, qui a dit que c'était moins difficile de rentrer dans un sous-marin nucléaire que de rentrer dans un abattoir.
Geoffrey Le Guilcher, vous avez participé au reportage à vous d'envoyé spécial.
C'est le dernier.
Dans lequel, d'ailleurs, le directeur de l'abattoir incriminé avait déclaré, à la vue des images de la L214, que c'était choquant. Il y a une souffrance réelle, avait-il dit. Si j'avais vu ça, ça ne se passerait pas bien.
En fait, voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est que les images, pour lesquelles L214 est attaqué aujourd'hui, ont été révélées en partie en partenariat avec l'envoyé spécial auquel j'ai participé avec Virginie Villard. Et donc, en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que France 2 n'a pas été attaqué. Il y a eu que L214. Ça a vraiment été diffusé le même jour. Hein. C'était voilà.
Oui, mais on a été attaqué avant. Enfin, a été attaqué quand Sébastien.
Quand ils ont été. Voilà. Oui. Mais je veux dire, après ça, on a utilisé des images volées, dérobées. Donc voilà. Sauf qu'en fait, en tant que journaliste, on est protégé par l'intérêt public, c'est-à-dire que si après on arrive devant un procès, on met en balance les droits. Est-ce qu'il y a matière, est-ce qu'il fallait révéler ces images ? Vous dites pourquoi est-ce que vous utilisez ces méthodes ? Bah voilà, moi par exemple, mon livre, je me suis infiltré dans un abattoir, j'ai changé d'identité, j'ai violé le premier article de mon contrat d'intérimaire.
Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin, justement ?
Bah, en tout cas, je pense que pour comprendre ce qui se passe dans les abattoirs, c'est-à-dire aller chercher de l'information d'intérêt public, ce que fait, à mon sens, L214,
un travail d'investigation.
On pourra en discuter parce qu'ils sont pas journalistes à la base, mais c'est pour le coup, voilà, c'est pour ça qu'ils utilisent ces méthodes-là. C'est pour ça que on utilise des méthodes un peu. on va dire...
De voyous.
C'est pas le mot que j'utiliserais, mais enfin, ça me dérangerait pas de l'utiliser.
Amandine Servicens.
Oui, non, mais pour revenir sur ce sujet, il faut quand même se poser la question pourquoi aujourd'hui il y a des associations comme L114 qui sont obligées de révéler des images. C'est aussi parce que pendant des années, il y a des associations de protection animale qui ont essayé d'alerter les pouvoirs publics, les services vétérinaires, et que rien ne bouge. Et qu'il faut qu'il y ait des images qui se retrouvent dans la presse, dans les journaux, pour que... Alors, on se pose la question de des animaux dans les abattoirs. Les services vétérinaires ne réagissent pas du tout, alors qu'on voit sur les vidéos des infractions majeures à la réglementation qui sont répétées. On voit aussi des actes de cruauté. Et donc voilà. Donc, on se dit que ça, on est obligé de sortir des images comme ça. Et L114, c'est un véritable travail de lanceur d'alerte en fait, pour informer aussi les consommateurs, puisqu'on aime manger de la viande, mais on n'aime pas regarder d'où ça vient et ce que vivent les animaux.
On va continuer le débat dans quelques instants, 23h31 sur France Inter. Le son de Tears for Fears en 1989 qui rendait hommage aux Beatles. Tout de suite, retour dans l'actualité. La cause animale, c'est dans le NRV.
J'aime la viande.
Rôti de porc.
J'aime la viande.
Des faux gras de canard élevés et élaborés dans le sud-ouest.
J'aime la viande.
Jambon de porc.
Manger du bœuf vous aide à garder la forme.
Le bœuf, le goût d'être ensemble.
Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
Ce n'est pas simplement manger ou pas de la viande ce soir le débat, c'est la cause animale au programme du NRV. Et on en parle notamment avec vous, Amandine Servicens. Vous êtes présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis. Votre association vient de lancer une campagne publicitaire sur les murs du métro parisien, dont le message est d'inciter la ville de Paris à ne plus accueillir de spectacles qui utilisent des animaux. Mais c'est quoi l'enjeu ?
Exactement. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier, puisqu'il y a un recul historique de la captivité en France et dans le monde entier, de la captivité à des fins de divertissement, donc notamment dans les cirques, mais on l'a vu aussi avec les delphinariums. Et donc, il y a de plus en plus de villes en France qui prennent des arrêtés municipaux afin d'interdire la présence d'animaux dans les cirques à s'installer sur leur commune. Et nous, notre objectif, c'est de convaincre la ville de Paris de ne plus autoriser des spectacles avec animaux. Donc, en fait, les mêmes cirques seraient autorisés à venir faire des spectacles, mais sans animaux. Et l'idée, c'est de montrer que la ville de Paris serait aussi un exemple en termes de bien-être animal, puisque aujourd'hui, voilà, il y a des gros cirques qui s'installent dans la ville de Paris avec des animaux qui sont dressés, qui vivent toute leur vie emprisonnés.
Et les animaux qui sont dans les zoos, qu'est-ce que vous en faites ?
Alors, notre campagne actuelle porte sur les cirques. Nous sommes bien entendu également opposés à la captivité des animaux dans les zoos, puisque nous défendons les intérêts des animaux sans distinction d'espèce. Donc, nous pensons que la place des animaux n'est pas emprisonnée toute leur vie pour nous divertir. Voilà. Et qu'elle est dans leur milieu d'origine en liberté. Donc là, nous participons activement à la mission animaux que dirige la ville de Paris, donc qui dure toute l'année 2017. Et à la fin de l'année, donc la mairie de Paris va rendre des conclusions, où on l'espère, elle interdira la présence d'animaux dans les cirques. Et d'ailleurs, c'est ce que a fait récemment la ville de Los Angeles, la ville de New York, de San Francisco.
Donc aux États-Unis, c'est très sensible à cela.
Oui, mais aussi en Europe, il y a des pays qui ont légiféré. Et l'idée aussi, c'est que Paris se place un exemple pour après, évidemment, qu'il y ait une loi au niveau national. Et d'ailleurs, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'est prononcé contre la captivité des animaux des fins de divertissement. Et donc, on espère d'en finir avec ce type de spectacle qui n'a pas sa place aujourd'hui en 2017. On peut se divertir autrement qu'en dressant des animaux, puisque ça montre aussi quand même à nos enfants qu'on peut dominer les animaux, qu'on peut les soumettre pour nous divertir.
J'imagine qu'au-delà, la corrida est aussi dans ligne de mire.
Ah, bien sûr. Et puis, en plus, étant originaire du Sud-Ouest, je peux vous dire que ça m'agace profondément qu'on généralise le Sud-Ouest à la corrida, puisque la majorité des habitants des villes taurines sont opposés aux corridas. Il y a eu récemment d'ailleurs un sondage qui a été fait à Nîmes où la majorité de la population souhaite l'abolition des corridas. Et ça, c'est pareil, sous couvert de tradition, de culture.
Mais c'est pas forcément sous couvert de tradition, c'est à la fois une tradition et c'est à la fois une culture.
Oui, mais en fait, c'est pas un argument qui est recevable éthiquement. Mais non, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on torture un animal. Enfin, je veux dire, il faut se poser la question au nom d'une tradition, donc on peut torturer un animal, on peut tuer. Enfin, l'idée aussi, c'est quand même de se poser des questions, et quand on voit qu'un animal souffre pendant 20 minutes à l'arme blanche, ça me paraît quand même profondément injuste. Surtout qu'on peut s'en passer sans qu'il y ait des spectacles de corrida.
Geoffrey de Guilcher.
Oui, en fait, il y a deux jeux qui sont autorisés en France, c'est les combats de coqs encore et la corrida. C'était le général de Gaulle qui avait fait une exception pour en disant qu'il y avait une tradition assez ancienne.
En fait, ça c'est très important, c'est qu'aujourd'hui la loi autorise des sévices graves sur animaux quand il y a une tradition locale ininterrompue. Ça veut dire que si localement, dans un village au fin fond de la France, vous avez toujours torturé des taureaux dans une arène, vous pouvez continuer. Mais si vous le faites à Paris ou à Toulouse, où c'est interdit, alors vous avez une amende et vous pouvez aller en prison. Donc c'est quand même une aberration déjà en termes de droit. Ça va à l'encontre du principe d'égalité. En tout point du territoire, on ne peut pas faire la même chose, en fait.
Philippe Dubois, sur ce sujet, vous, l'amoureux des bovins.
L'amoureux des bovins, non, je suis totalement opposé à la tauromachie, il n'y a pas de souci.
Ça peut être un souci d'être opposé à la tauromachie.
Ça peut être un souci, oui, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous disiez tout à l'heure que vous étiez contre aussi les parcs zoologiques, j'aimerais quand même apporter une nuance. Autant je suis contre effectivement la captivité des animaux sauvages à des fins de divertissement, autant il faut savoir qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de parcs zoologiques qui ont vraiment des fondements même de conservation. Et je peux vous dire.
Vous êtes sûr ou c'est du marketing ?
Non, attendez, excusez-moi, je suis scientifique, je travaille dans la conservation aussi, comme ornithologue à la Ligue Protection des Oiseaux, donc je connais bien le sujet, et je peux vous dire que vous parliez tout à l'heure des États-Unis, s'il n'y avait pas eu le zoo de San Diego, l'Oryx.
Complètement disparu.
Mais ça c'est une
S'il
vraie question.
S'il n'y avait pas eu le zoo de Pékin, le grand panda aurait totalement disparu.
Mais justement,
s'il
ça c'est une vraie question.
S'il n'y avait pas eu le zoo de Jersey, la moitié des lémuriens qui ne seraient plus là. Alors, faut pas dire n'importe quoi. Autant je suis contre la présence d'un pauvre ours ou un tigre dans 10 mètres carrés, autant aujourd'hui les parcs zoologiques qui sont responsables, je pense par exemple le zoo de Douai-la-Fontaine, font des choses absolument extraordinaires pour la conservation, parce qu'il faut savoir que les animaux qui naissent en captivité sont des animaux qui vont être relâchés dans des parcs.
Combien il y en a qui sont relâchés ?
Amandine
Servet-Saint.
Ah, bah,
écoutez,
non, mais enfin la question des os, c'est une question importante parce que en fait les animaux sauvages qui sont aujourd'hui certains en voie de disparition, en voie d'extinction, subissent une double peine. C'est-à-dire que d'un côté, on les massacre dans leur milieu d'origine et d'un autre côté, à cause de ça, on se permet de les emprisonner toute leur vie.
Non,
donc je veux dire, non mais attendez, je vais finir si vous
permettez. C'est un moyen de conserver. C'est un moyen de les mettre à l'abri.
Oui, mais si vous voulez, là ce qu'on fait, c'est qu'on on choisit de préserver l'espèce et au nom de l'espèce, on va faire souffrir des individus. Et moi ce qui m'intéresse, c'est les individus en tant que tels, c'est-à-dire que au nom de notre
mais vous dites sur quelle base scientifique? Non, est-ce que vous avez fait vous-même des études? Est-ce que vous avez travaillé dans un parc zoologique?
Est-ce que vous pensez que la place des animaux sauvages non, est la place en France des animaux sauvages emprisonnée
Mais pas du tout.
Exhibée au grand public?
Quand il me reste...
Les zoos, c'est des associations, c'est des entreprises 100, à but
100 grands pandas, je suis désolé, quand il me reste 100 grands pandas, je suis prêt à en mettre 6 en captivité.
Exactement, pour votre plaisir, pour un plaisir esthétique.
Pas forcément.
Pour qu'ensuite, il y ait des animaux de leur descendance qui soient remis dans la nature. Si aujourd'hui, on ne fait pas de la reproduction en captivité de l'orang-outan, il n'y aura plus d'orang-outan. Alors, je serais peut-être très content parce qu'il n'y aurait aucun orang-outan en parc zoologique, mais il n'y aura plus l'espèce orang-outan. Et je vous rappelle quand même qu'il y a entre 5 et 10 000 espèces qui disparaissent chaque année. Alors, on pourrait
À cause de quoi disparaissent les espèces?
À cause de nous, évidemment.
Exactement.
Mais, eh ben, justement,
et donc, ça nous donne l'autorisation de les emprisonner.
Ah bah alors, si on ne fait rien, on va continuer à
mais
dire.
En fait, ce qu'il faut faire,
c'est qu'il faut faire quoi,
alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà soutenir les associations localement qui travaillent sur, et qui luttent contre le braconnage. Et là, je rappelle que les zoos sont des entreprises. Ce sont pas des associations, déjà, premièrement.
Mais bien sûr, vous avez raison là-dessus.
Ensuite, on pourrait également, par exemple, interdire le commerce d'ivoire en Europe. Ça pourrait être aussi quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut comprendre quand même que l'objectif des zoos, quand même, c'est de vendre des tickets.
Je prends les orang-outans. Qu'est-ce que vous faites avec les orang-outans? Faites avec les orang-outans?
Il n'y a pas d'ivoire dans les orang-outans.
C'est localement soutenir les populations qui se battent. Il y a aussi un problème de déforestation aussi.
Oui, d'accord. Donc,
la déforestation à cause
dans l'urgence.
Quelle est la cause de la déforestation?
Vous faites quoi?
Non, c'est pas ça, je vais pas rien faire. Mais si vous voulez, c'est s'attaquer aux causes profondes.
Ah, mais oui, mais ça,
c'est du discours.
Non, c'est pas du discours, c'est qu'il faut comprendre pourquoi il y a de la déforestation.
Ah, mais ça, ok. Mais pourquoi il y a de la déforestation?
Parce qu'on déforeste pour faire pousser des cultures céréalières qui après vendront les animaux pour l'élevage.
On n'entend plus rien. Que faites-vous des orang-outans? Eh bien, si on entendait la réponse dans quelques instants, 23h43 sur France Inter, il faut continuer le débat. Il y a un mot qui me vient là quand je vous écoute, c'est Apocalypse. Elle est signée cette fois-ci Cigarette After Sex, c'est pas mal non plus, la révélation rock de Brooklyn de l'année.
Haunt me, I know you want.
pour fêter ça, ils partiront en live les cigarettes Afsasak sur France Inter. Ce sera le 26 octobre au studio 105. Pardon.
Le nouveau rendez-vous.
Il m'a dit un rendez-vous.
Laurent Goumard.
Et c'est où le rendez-vous ?
Sur France Inter.
Le NRV ce soir en cause animale avec Brigitte Gauthier de l'association L214, Geoffrey Le Guilcher, journaliste, on vous donne l'enquête Steak Machine, Amandine Saint-Vicens, qu'on a beaucoup entendu, présidente de l'association Paris Animosopolis et qui mène un combat, on l'a entendu, bien éthique, et Philippe Dubois, écologue passionné par les vaches. On parlait justement de la situation des animaux dans les zoos il y a un instant. Quelle est votre relation à cela, vous ? La présidente de, enfin, qui travaillait pour L214, Brigitte Gauthier.
L214, c'est une association qui vient du mouvement antispéciste, donc qui effectivement a beaucoup de mal aussi avec la captivité des animaux. Alors j'entends bien le fait de vouloir sauver des espèces, voire des individus aussi, puisqu'il y a des centres de revalidation des animaux par endroit, etc. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait dans l'intérêt des individus ou est-ce qu'on le fait dans l'intérêt d'une espèce ? Est-ce que si on le fait dans un intérêt d'une espèce, on va le faire aussi en prenant en compte les besoins des individus ? Enfin, c'est toutes des questions à se poser qui sont d'ailleurs sur le titre de l'association d'Amandine, Zoopolis, c'est quelles sont nos relations aujourd'hui avec les animaux ? Et effectivement, quand on voit qu'un zoo, ses revenus, c'est les tickets d'entrée et tout ça, on sait bien qu'ils doivent montrer les animaux et que finalement les animaux doivent faire le spectacle. C'est pas la même chose qu'un centre de revalidation où là on va être sur des animaux qui sont soignés, à qui on laisse reprendre des forces et qu'on va relâcher ensuite, etc. ou qu'on va conserver parce qu'ils sont plus capables de vivre seuls dans la nature et qu'ils ont besoin d'un accompagnement, ça c'est sûr. Mais dans une optique non spéciste, en fait, on se pose la balance des intérêts au niveau des individus, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait dans l'intérêt pour nous-mêmes, les êtres humains, ou est-ce qu'on le fait dans l'intérêt des animaux eux-mêmes, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous gêne quand on parle d'espèce, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui vous dérange, Amandine Saint-Vicens.
En fait, le problème qu'il y a, c'est que on regarde en fait uniquement, on regarde pas, on n'est pas d'un point de vue des individus, c'est-à-dire qu'on regarde les animaux de manière globale et on les prend pas individuellement, c'est-à-dire on regarde pas leur personnalité, que chacun est unique en fait. Mmh. Et le souci qu'il y a, c'est que on se préoccupe plus de savoir si par exemple les éléphants, je prends le cas des éléphants qui sont en voie de disparition, notre priorité, c'est de savoir qu'il y ait toujours des éléphants sur cette planète. Par contre, leurs conditions en tant qu'individus, s'ils sont emprisonnés, s'ils ont des troubles du comportement parce qu'ils vivent en groupes sociaux, qu'ils ont des relations sociales très complexes, etc., on regarde pas, en fait, tout ce qui est l'éthologie, c'est-à-dire leur comportement dans leur milieu d'origine. Nous, ce qui nous intéresse dans notre société actuelle qui est spéciste, c'est juste que l'espèce soit toujours là, parce que elle a une valeur esthétique, c'est une fonction utilitaire. Et de même, toujours dans cette notion d'espèce, par contre, il y a des espèces qui nous gênent. Donc, je prends par exemple, nous, puisque c'est une de nos campagnes, qui sont par exemple les rats à Paris. Donc là, actuellement, la mairie de Paris mène un grand plan de dératisation.
Mais ils sont
là,
passés chez moi ce matin, j'étais très content.
Voilà. Où là, par contre, là, les rats, on considère qu'ils sont pas jolis, qu'ils nous font peur, que peut-être qu'ils sont porteurs de maladies. Pourtant, dans l'histoire contemporaine, il n'y a jamais eu de maladie, d'épidémie. Et là, par contre, la mairie de Paris va dépenser des moyens énorme avec des anticoagulants, c'est-à-dire ça provoque des hémorragies internes chez les rongeurs.
Donc vous êtes contre ?
Oui, nous, ce qu'on demande, c'est des méthodes contraceptives à la mairie de Paris. Et d'ailleurs, j'en appelle tous mes vœux, puisque là, au Conseil de Paris de lundi, va être votée des recherches génétiques, parce que les rats sont de plus en plus résistants aux anticoagulants. Et donc, on va essayer de faire une surenchère chimique pour les empoisonner encore plus, alors qu'il y a des méthodes contraceptives, comme la ville de Chicago, qui les utilise actuellement.
Moi, chez moi, le rat, ça sera une balle dans la tête. Oui, je vois le
guilcher. Non, mais en fait, je pense qu'il y a quasiment autant de problématiques aujourd'hui que d'animaux.
C'est-à-dire
que, par exemple, les éléphants, pour prendre un exemple précis, en France, il y a beaucoup de circassiens qui n'ont pas de permis à jour pour détenir un éléphant. Et donc, du coup, quand des associations prouvent que, par exemple, un éléphant a des comportements qu'on peut qualifier de maladifs dans sa cage et qu'ils arrivent à obtenir le fait qu'il soit retiré à son propriétaire, en fait, personne ne sait où le mettre. Donc, souvent, il atterrit dans un autre cirque. Il y a une histoire comme ça d'un circassien qui a poursuivi un autre cirque pour récupérer son éléphant. Il y a l'Arche en France qui accueille les animaux sauvages, mais sur certaines espèces c'est très compliqué de savoir où les mettre. Donc en fait, il y a plein de combats, par exemple, c'est pour le futur. C'est-à-dire que quand vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on va faire des vaches, bah, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur Arte et l'homme créé à la vache. En fait, la vache, à la base, c'est comme les poulets de chair. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui a été qui a été créé pour satisfaire les besoins industriels et massifs. C'est-à-dire que c'est pas. On peut pas dire maintenant qu'on en produit X milliards par an juste en France. Bah non, on peut plus rien faire parce qu'on en a trop. Enfin, vous voyez, c'est l'origine du problème en fait.
Philippe Dubois.
Oui, c'est toujours le débat de l'espèce versus l'individu.
Voilà, c'est ça, j'ai bien compris.
Je pense que pour moi, c'est l'espèce dans un contexte de biodiversité. Je redis que sans une biodiversité riche et variée, l'homme n'a pas sa place et l'homme disparaîtra. Après tout, pourquoi pas? Et l'individu, c'est effectivement quelque chose qui est important. Évidemment, le bien-être animal, etc. Mais je pense que c'est quelque chose... Vous prenez le débat à l'envers. Et je pense que se dire que, si j'ai bien compris ce que vous disiez, que, bon, ma foi, si des espèces disparaissent, tant pis, pourvu que chaque individu n'est
pas bien traité.
Oui. Moi, je suis pour que l'espèce soit maintenue et que les individus ne disparaissent pas. Et c'est là où je vous rejoins. C'est vrai que c'est
vous bien tournez mieux du côté de faire... Brigitte Gauthier,
oui,
de 214.
Je suis d'accord avec vous. C'est bien mieux d'essayer de faire des centres de réhabilitation in situ. Mais quand il y a des guerres, quand, comme vous l'avez dit, il y a une déforestation qui fait qu'il n'y a plus le milieu, qu'il n'y a plus la sécurité pour les animaux, je ne vois pas en quoi... c'est dramatique et c'est un crime de prélever quelques individus qu'on n'a pas l'intention de tuer, mais qu'on aide à se reproduire pour la pérennité de l'espèce. Ça me semble pas du tout, comment dirais-je, quelque chose qui soit répréhensible. C'est purement de la conservation. Et les scientifiques, aujourd'hui, savent que c'est la seule solution pour sauver, dans certains cas, les espèces.
Magique Gauthier.
Bon, c'est clair. Là, on est en train de parler, finalement, de cas assez particuliers. Enfin, voilà, quand on regarde... la majorité des individus exploités par les êtres humains, c'est les poissons, dont on parle très très peu, et puis c'est les animaux d'élevage, où on en tue 3 millions tous les jours dans les abattoirs en France, et là aussi,
faudrait supprimer l'élevage.
Pour préserver l'élevage, on nous dit qu'il faut continuer de tuer les animaux, enfin, et donc, pour sauver les poissons, faut manger les poissons, enfin, a des discours qui sont complètement paradoxaux.
Donc ça veut dire qu'il faudrait par exemple supprimer l'élevage?
Alors, supprimer l'élevage, alors d'une certaine façon, oui, c'est-à-dire l'élevage pour faire tuer des animaux, ça n'a pas de sens. Par contre, qu'on ait des endroits où il y ait des animaux, des vaches qui vivent jusqu'à leur belle mort, etc.
Mais des centres de zoos pour vaches.
Bah oui, c'est ça.
Non, des sanctuaires.
Des sanctuaires, des zones...
Les sanctuaires, c'est pour les espèces sauvages, c'est pas pour les espèces de domestiques.
Eh bien, pourquoi pas.
Et si, il y a des sanctuaires, par exemple, aux États-Unis, sanctuaires vegan, où
il y en
fait,
a aussi en France.
Oui, en France également aussi.
Philippe Dubois, vous pensez que l'élevage permet justement de permettre à ces espèces de vaches qu'on a eues dans toute l'histoire en France d'être conservées, justement. C'est l'élevage qui permet ça.
Oui, la race. D'abord, une race n'est pas une espèce, hein, ça je ne vais pas vous faire un cours, vous le savez. Simplement, la diversité des races, c'est la plus belle expression du génome d'une espèce. La diversité des races, par exemple chez les vaches, que je connais bien, c'est l'expression de la capacité qu'a une espèce de se diversifier et d'être liée à un terroir, d'être liée à un mode d'élevage, d'être liée à un climat, etc. Je trouve que c'est une superbe histoire de vie. Maintenant, sur le fond, qu'on les sacrifie de façon outrancière, et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la bonne solution, mais faire disparaître les vaches pour notre propre plaisir, c'est aussi crétin que de les assassiner, comme on le fait parfois.
Eh bien, ça sera le mot de la fin pour ce soir.
Elles ont été créées quand même.
Elles ont été créées par les humains.
Voilà, j'ai l'impression que le débat va continuer. Je vous remercie tous. Brigitte Gauthier, L214, Une voix pour les animaux, le livre de Jean-Baptiste Delamo vient de paraître chez Artaud. Philippe Dubois, Toutes les vaches de France, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ça sort demain aux éditions de La Chaux et Niesley. Geoffroy Le Guichère, votre excellente enquête Steak Machine est toujours disponible aux éditions de La Goutte d'Or et Amandine Saint-Vincent. Pour en savoir plus sur votre action, toutes les infos, c'est sur le site internet zoopolis.fr. On va se quitter avec une prévision météo maintenant. L'année la plus chaude de tous les temps, c'est un constat ou peut-être une prédiction de Raphaël dans son nouvel album. Raphaël qui sera notre invité live lundi prochain dans Le Énervé.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison,
Les volets cloquent vers la mer. Le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord. Avis de grand frère à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête. Des crêtes d'écume au plafond. Un orage dans le salon. Dans la salle de bain du bas, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent. Le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent. Les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu. Et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.
Mais que s'est-il vraiment passé pendant 2 heures dans ce nouveau rendez-vous ?
Je suis granivore, moi, herbivore, carnivore, frugivore, etc.
J'ai été paralysé par un chien qui a essayé de tuer mes chats à chaque seconde où c'était possible.
On tue aujourd'hui 1000 milliards d'animaux, entre les animaux terrestres et les animaux aquatiques, chaque année dans le monde.
On va pas continuer à faire un génocide animalier comme ça pour faire bander les Chinois. Merde !
Merci beaucoup.
C'est quand même Brigitte Bardot qui est le mot de la fin. Le énervé, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on est podcastable. On y est joignable sur Facebook. On vient de dépasser le dos de 6000. Et Twitter avec le hashtag énervéfi. Un grand merci à Stéphane Le Guenec et à Juliette Medeviel pour la réalisation. Pareil, tiens, pour Virginie Rouzé, Corinne Valente et Benoît Lagan, les as de la préparation. Demain, vous avez un nouveau rendez-vous avec nous. Et on sera là avec ça.
On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Hein.
Demain, pas de politique, mais on va en parler. Jeudi, comédie politique avec des snipers. Nicole Ferroni, Carl Zéro, Bruno Gassio et Cyril Aldin. Michel Bouquet, lui, c'est chez Molière. Le réalisateur Gilles Bourdos filme des espèces menacées. Elles ne sont pas animales. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.